VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Kenya, 5 policiers kényans ont été tués ce jeudi quand leur véhicule a heurté un engin explosif au bord d'une route de l'est du pays. Au lendemain de 2 autres attentats similaires qui ont tué 8 policiers dans la même région. Les 5 policiers tués aujourd'hui étaient en route pour renforcer notre opération en cours vers Liboy, ville frontalière de la Somalie, a déclaré le coordinateur de la région du Nord-Est, Mohamed Ali Saleh. L'attaque a eu lieu dans le comté de Garissa, entre les villes de Malelei et Kulan, a précisé la Croix-Rouge kényane. Elle a été revendiquée comme les 2 autres attaques de mercredi par les islamistes somaliens Shebab, affiliés à Al-Qaïda, rapporte le site Intelligence Group, spécialisé dans la surveillance des sites internet islamistes. Mercredi, 8 policiers avaient été tués dans les mêmes circonstances dans 2 incidents distincts dans les comtés de Garissa et Mandera, frontaliers de la Somalie, également dans l'est du Kenya. En Somalie, le groupe État islamique vient de revendiquer son premier attentat suicide, d'une attaque qui a fait au moins 5 morts selon la police. L'opération a eu lieu dans la ville côtière de Bosaso mardi soir dans la région semi-autonome du Puntland dans le nord du pays. Les militants islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, avaient jusque-là pignon sur rue en Somalie. Mais l'État islamique leur fait de plus en plus concurrence sur place. Pourquoi cette rivalité entre les deux groupes islamistes? La réponse de Roland Marshall, chercheur et spécialiste des questions du terrorisme, au micro d'Abdourahmane Dia.
Écoutez, je crois, sur la violence, je crois qu'il faut être très prudent. C'est-à-dire, ce à quoi on assiste depuis très longtemps au sein de cette mouvance, c'est une globalisation très rapide des répertoires d'action. Donc, tout ce qui peut être utilisé par un groupe est potentiellement copié par l'autre. C'est pas que l'un serait moins violent que l'autre. C'est plutôt, il y a une différence doctrinaire et puis il y a un aspect politique éminent. Al-Qaïda a commencé à un but d'abord d'abattre l'ennemi avant de construire l'État. L'État islamique, lui, pense que sur toute parcelle de territoire libéré, il faut construire les prémices de ce que sera un jour l'État islamique au niveau mondial. Donc je crois qu'il y a ça et puis il y a aussi une rivalité proprement doctrinaire qui est le fait qu'il ne pourrait y avoir qu'un seul ennemi.
La recrudescence des attentats dans d'autres pays revendiqués par l'État islamique, est-ce que cela peut s'expliquer par le recul de cette organisation en Irak et en Syrie?
C'est tentant de le dire, mais je pense que c'est assez frappant de voir que jusqu'à un certain moment, il y avait une centralité de l'Irak. C'est vrai qu'à partir du moment où l'organisation de l'État islamique s'est trouvée en difficulté, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a eu la volonté beaucoup plus forte d'intervenir en Occident. Mais on peut aussi penser que d'un point de vue, encore une fois, idéologique, tôt ou tard, cette confrontation aurait lieu, indépendamment de la situation en Syrie.
Roland Marshall, chercheur et spécialiste des questions de terrorisme. Au Mali, une école primaire a été saccagée et incendiée mercredi après-midi dans le centre du pays par des djihadistes présumés, selon des sources administratives et la gendarmerie. Des djihadistes armés qui sont contre l'école occidentale se sont pris aux salles de classe de l'école primaire de la commune de Ndodjiga, dans le cercle de Yuraru, dans la région de Mopti, a déclaré ce jeudi à l'AFP un responsable de l'administration locale sous couvert d'anonymat. Les assaillants ont aussi menacé de s'attaquer à d'autres écoles et 2 civils présents sur les lieux ont été bastonnés, a indiqué une autre source administrative. La gendarmerie de Mopti, chef-lieu de la région du même nom, confirme la destruction de plusieurs salles de classe sans donner plus de détails. Elle a en outre annoncé l'envoi de renforts dans le secteur. C'est la première fois qu'une école où l'enseignement est dispensé en français est saccagée et brûlée dans cette région du centre du Mali par des djihadistes présumés. Si l'État malien ne fait rien, les enseignants par peur ne donneront plus de cours, a déclaré ce jeudi à l'AFP un enseignant d'une école située à quelques dizaines de kilomètres de la commune de Ndodjiga. En Guinée, des dizaines de Burkinabés ont été arrêtés pour orpaillage clandestin. Ils sont détenus à Sigiri, dans la principale zone aurifère dans le nord-est du pays. Les détails avec Morgane Guiriec.
Ces arrestations surviennent dans le cadre d'un ratissage de l'armée dans les zones aurifères à la demande du ministère des Mines, a déclaré à l'AFP un responsable de ce département qui n'a pas indiqué de date ni le nombre de personnes interpellées. Depuis 5 jours, nous vivons dans l'enfer. Nous sommes pourchassés, arrêtés, humiliés par les forces de sécurité guinéennes, témoigne un orpailleur. Une source policière confirme que beaucoup de ressortissants burkinabés sont détenus en attendant d'être expulsés. Ils ne comprennent pas que cette exploitation artisanale de l'or a été interdite par les autorités guinéennes depuis 3 ans. Outre les Burkinabés, les Maliens, les Ghanéens, des Béninois et des Sénégalais s'adonnent depuis plusieurs années à l'orpaillage sans être inquiétés. Mais cette fois, les autorités guinéennes sont décidées à mettre fin à cette activité.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale, l'Union européenne est sur le point d'imposer de nouvelles sanctions contre 9 autres officiels de la RDC. Mais ces sanctions ont-elles un impact? Jason Stern, directeur du Centre international de coopération à New York, estime qu'elles sont utiles.
Le système monétaire international est assez globalisé. Par exemple, quand le Trésor américain impose des sanctions sur les officiels en RDC, ce n'est pas seulement pour les avoirs qu'ils ont en RDC, mais potentiellement, c'est toute transaction en dollars américains qui pourrait être bloquée. Et comme, par exemple, beaucoup de transferts en RDC se font en dollars américains, donc si quelqu'un envoie de l'argent de Chine en RDC, normalement, ça transite à travers le dollar. Toutes les transactions, tous les transferts bancaires en RDC pour ces individus pourraient être bloqués. Donc, on a entendu des histoires que le général Numbi, qui était sur une autre liste de sanctions des États-Unis, par exemple, avait du mal à tirer de l'argent de son compte bancaire en RDC, ou le général Kanyama, qui était aussi sur une autre liste de sanctions, avait du mal à accéder à son compte bancaire. Donc, il ne faut pas seulement regarder par rapport aux avoirs qu'ils ont à l'étranger, mais ça peut aussi avoir un impact sur leurs avoirs en RDC.
Jason Stearns, directeur du Centre international de coopération à New York. Afrique du Nord, changement surprise à la tête du gouvernement en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika a remplacé, contre toute attente, son homme de confiance, le premier ministre Abdelmalek Sélal, en poste depuis 2012. Le point avec Jacques Aristide.
Les Algériens ont été pris de court, d'autant qu'Abdelmalek Sélal avait commencé des consultations pour former un nouveau gouvernement élargi, entamé au lendemain des législatives du 4 mai. Pour les observateurs, il a été renvoyé pour avoir échoué à convaincre la principale coalition islamiste d'entrer dans le nouveau gouvernement. Cet homme de 68 ans a dirigé 5 gouvernements et avait également conduit les campagnes électorales de Bouteflika en 2004 et en 2009. C'est le ministre de l'Habitat, Abdelmadjid Tebboune, 71 ans, qui est nommé nouveau Premier ministre. Il s'est retrouvé projeté sous les feux des projecteurs après avoir été décoré de l'Ordre du Mérite National l'année dernière, une distinction qui faisait de lui le nouvel homme de confiance du président algérien.
Le président américain Donald Trump est à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN. Les Européens ont fraîchement accueilli le chef de l'exécutif américain, notamment à cause des divergences entre Washington et l'Europe sur la Russie. Toujours concernant la tournée du président Trump en Europe, Donald Trump va affecter 300 millions de dollars à la lutte contre la famine. Une promesse faite lors de sa rencontre avec le pape François hier au Vatican, alors que l'administration américaine propose une baisse drastique de l'enveloppe allouée à l'aide. Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué, le service de presse de la Maison-Blanche indique que le président a renouvelé l'engagement des États-Unis à combattre la famine. Un budget de plus de 300 millions de dollars est dédié à la lutte contre la famine, plus particulièrement au Yémen, au Soudan, en Somalie et au Nigeria, ajoute le communiqué. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 20 millions de personnes dans des zones frappées par la sécheresse souffrent de famine ou risquent d'en souffrir. Les Nations Unies préviennent que ce pourrait être la pire crise depuis 50 ans. La situation est aggravée par les conflits dans ces pays. Rien que pour le Nigeria, le Programme alimentaire mondial dit avoir besoin de 230 millions de dollars pour nourrir les personnes affectées jusqu'en octobre prochain. Les Nations Unies ont annoncé que 1,4 milliard de dollars sont nécessaires pour aider près de 2 millions de réfugiés qui ont fui la guerre et la famine au Soudan du Sud.
Et pour terminer en Angleterre, les enquêteurs progressent aujourd'hui dans le démantèlement du réseau djihadiste qui a aidé l'auteur de l'attentat de Manchester. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.